C'est mon tour de vous parler de quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Je ne veux pas prendre très long, mais j'ai intitulé cette partie ceci. 39 secondes. 39 secondes. Le drame du vol Barcelone-Düsseldorf qui s'est écrasé cette semaine dans les Alpes avec 150 personnes à bord nous a tous secoués et profondément marqués. Et la révélation stupéfiante que ce crash était en fait un suicide entraînant la mort de 149 personnes était d'autant plus choquante et incompréhensible. Déjà, la mort est une chose horrible. Mais ce qui est psychologiquement encore plus horrible, c'est de penser que du moment où l'avion a commencé à descendre, il y a eu apparemment une qui a pris instantanément la vie de toutes ces personnes. Ce qui fait réfléchir, je pense, c'est qu'aucun des passagers n'aurait pu imaginer, en montant dans cet avion ce jour-là, que leur mort allait arriver ce jour-là. Ils avaient tous des projets dans la vie. Et en un instant, ces projets ont été arrêtés. Et que dire des familles des victimes? On les a vues à la télévision, sous le choc, se rendant sur ces lieux. Quoi penser? C'est impensable. Écoutez, ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, n'est-ce pas? Bien aimé, ce drame nous rappelle certainement beaucoup de choses, mais surtout pour moi, ce que ça m'a fait penser, c'est la fragilité de la vie. Tout peut aller si bien pendant tellement longtemps et soudainement, sans aucun avertissement, la vie peut basculer au cauchemar en quelques instants et de manière totalement inattendue. C'est cruel. Comment faire face et comment s'y préparer ? Il y a un autre homme dont je connais l'histoire, et certains de vous aussi, qui lui aussi a vu sa vie basculer dans le cauchemar. Mais pour lui, sa vie a basculé en 39 secondes. Oui, en 39 secondes. Vous dites, mais pourquoi 39 secondes ? Eh bien parce que c'est le temps que cela a pris pour les quatre messagers qui sont venus lui apporter la nouvelle de ce qui venait de lui arriver. Voici ce que ces quatre messagers lui ont annoncé. C'était avant le jour des portables et des communications modernes aujourd'hui. Le premier et le deuxième messager sont venus lui annoncer qu'une tribu voisine, il était au Moyen-Orient, venait de s'abattre sur ses terres pour les piller, le détruire. Il venait de perdre en un instant son bétail, ses terres et toutes ses récoltes. Bref, cet homme, en un instant, apprenait qu'il avait été ruiné financièrement. Un autre messager est venu lui annoncer que tous ses serviteurs, il en avait beaucoup, venaient d'être massacrés. Puis un quatrième messager est arrivé lui annoncer qu'une tempête violente venait de s'abattre sur leur contrée, que sa maison venait de s'écrouler et que ses 10 enfants étaient tués d'un coup. En 39 secondes, qui est le temps qu'il faut à peu près pour lire ces quelques versets dans le livre de Job, dans la Bible qui annonce ces nouvelles, cet homme apprend qu'il est ruiné financièrement, qu'il a perdu tous ses serviteurs et qu'en plus qu'il vient de perdre ses 10 enfants. Mais ce n'est pas tout. Les choses s'empirent pour lui. Peu de temps après, certainement lié au stress en partie, il perd sa santé. La Bible nous dit que cet homme, et je cite, « fut frappé d'ulcères malins depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et il prit un tesson pour se gratter et il s'assit sur la cendre. » Apparemment, la cendre était la seule chose qui pouvait calmer ses douleurs. Mais ce n'est pas fini. La seule chose qui lui restait, c'était son épouse, sa femme. Elle, dans un moment de désespoir, en voyant ce qui était arrivé à son mari et à sa famille, se tourne vers son mari dans un moment qu'on peut presque comprendre, et elle dit « Tu demeures dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais ce n'est pas tout. Il avait des amis. Donc trois de ses amis viennent, et la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont rien dit pendant 7 jours. Ça, c'était très bien. Mais ensuite, ils ont commencé à parler, et ils ont dit tout faux. Parce qu'ils ont dit à cet homme, « Ton problème, Job, c'est toi, c'est ton péché. Dieu te punit pour ton péché. » Aucune compassion. On s'arrête là, on réfléchit, est-ce que quelque chose peut aller pire que cela pour quelqu'un? Alors, il ne lui reste qu'une chose à faire, c'est de mourir. Et il dit, je cite, « Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. » Je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est de voir combien rapidement une vie peut basculer d'un moment à l'autre, de manière inattendue. Bien sûr, vous connaissez cette histoire, ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est l'histoire de Job. Et ce drame dans la vie de Job est d'autant plus inexplicable du fait que sa vie semble être presque parfaite, une vie d'intégrité. Il avait une grande famille, 10 enfants, c'était un signe de bénédiction à l'époque. Il était très riche. Il nous dit qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. C'est ce que j'appelle une bonne situation professionnelle. En plus, il est estimé, la Bible nous dit que cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient, très connu, vraiment une bonne réputation. Mais surtout, il était intègre et droit, la Bible nous dit qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Quelque part, on regarde la vie de cet homme, on se dit, mais ce genre de choses ne devrait pas lui arriver à lui. Il est trop bien, cet homme. Eh bien non. Cette histoire nous montre, si vous la lisez en détail, surtout le premier chapitre, que Dieu est souverain même sur les malheurs des hommes. Et en plus, lui, comme tous les hommes, comme nous autres, nous vivons dans un monde déchu, qui veut dire que le mal règne. Et donc, les choses mauvaises arrivent aux gens, de manière inattendue, des choses terribles. Et aujourd'hui, avec nos modes de communication et la télévision et Internet et tout ça, ces images, elles nous viennent, mais instantanément. Alors vous dites, mais John, pourquoi est-ce que tu racontes cette histoire? C'est un culte de Pâques, une fête de Pâques. Eh bien, pour cette raison. Ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que la qualité d'une vie n'est pas mesurée par l'intensité de l'épreuve, car tout le monde est éprouvé à un moment ou un autre, mais par la qualité de la réaction. La qualité de la réaction. L'épreuve de Job est surpassée d'une chose, sa réaction. Certes, sur le coup, Job perd espoir, c'est normal, mais avec le temps, son attitude change. C'est remarquable, son désespoir se change en espoir. J'aimerais vous montrer un verset, je vais laisser ce verset pendant quelques instants pour que vous puissiez le regarder, je vais le lire. Car ces versets nous montrent la perspective de Job à l'intérieur du malheur. Ben alors je vais le lire s'il n'apparaît pas. Écoutez bien. Job 19, 25 à 27. Job dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sauvera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Non, mais c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux d'entendre cela. À la fin de ce verset, Job y dit « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi ». En somme, il était en train de dire « Je languis de mourir parce que je sais que mon épreuve physique se terminera, mais parce que j'ai une espérance bien au-delà de cette vie ». En fait, ce que nous apprenons dans ces quelques versets, c'est que Job avait trois certitudes. Trois certitudes. Et mes amis, ce sont les certitudes qu'il faut avoir pour pouvoir vaincre les épreuves de la vie. Numéro une, première certitude, Job était certain que son corps serait détruit. Il savait qu'il allait mourir. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mais oui, Job savait qu'il allait mourir. Il savait que la mort était inévitable. Il sentait son corps vieillir. En fait, je pense que tout le monde le sait, qu'ils vont mourir, mais je ne suis pas sûr que tout le monde s'y prépare. Quelque part, je pense qu'on essaie de repousser l'idée de la mort. La mort angoisse les gens. Moi, j'ai l'impression que les gens remplissent leur vie d'activités pour éviter de devoir réfléchir à la certitude de la mort. Ce qui est intéressant, c'est que pour Job, la mort n'était pas un sujet d'angoisse. Bien sûr, physique, oui, mais pas du tout spirituel. En fait, c'était une libération. La mort devenait pour lui un moment attendu, anticipé, une joyeuse rencontre. Mon âme languit d'attente. Je connaissais un homme il y a des années en arrière, âgé. Il est venu me voir un jour, il m'a dit, John, enfin c'était au culte à l'église, il m'a dit, John, écoute, est-ce que tu pourrais venir me rendre visite cette semaine, c'est important. J'ai dit, ouais, d'accord. Donc j'y suis allé le lendemain. Il m'a dit, John, je vieillis et je crois que je vais bientôt mourir. Et il m'a dit qu'il m'a semblé important que nous nous voyions une dernière fois. Je me suis dit dans mon cœur, non, mais t'as en parfaite santé. Oui, il était âgé, mais je ne sentais pas du tout qu'il allait mourir. Deux semaines plus tard, il était mort. J'aurais jamais imaginé cela de lui, mais il était prêt. Et il se préparait pour sa mort. Oui, Job savait que la mort était inévitable. Ma peau sera détruite quand je n'aurai plus de chair. Pourquoi est-ce que nous mourrons? La Bible est claire, elle dit le salaire du péché, c'est la mort. Comme il a été expliqué tout à l'heure, à un moment donné, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Nous sommes tous des rebelles contre Dieu. Et une des résultantes de cela, c'est la mort. C'est pour ça que tous les hommes meurent physiquement. Donc ça, c'est une certitude que Job avait. Et ça, ça l'a aidé à préparer l'avenir. Il savait qu'il allait mourir. Numéro 2, deuxième certitude qu'il avait. Job était certain, écoutez, c'est incroyable. Il était certain qu'il avait un rédempteur. Il faut bien réaliser que Job est le premier livre écrit dans l'Ancien Testament, même avant Genèse, chronologiquement. Donc, c'est incroyable de voir ce qu'il écrit. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Premièrement, c'est une certitude. Il dit, je sais. Ce n'est pas un souhait, pas une idée, pas une espérance, une certitude. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il parle de son Rédempteur, qui veut dire qu'il a déjà une relation avec ce Rédempteur. Il le parle de son propre Rédempteur. Le mot rédempteur en hébreu est le mot goël. C'est quelqu'un qui pouvait racheter un esclave pour le libérer, quelqu'un qui pouvait défendre un membre de sa famille dans une cour de justice, ou aussi quelqu'un qui pouvait épouser la veuve d'un proche afin de lui donner un avenir et une espérance. Boaz, par exemple, si vous connaissez la Bible, était un goël pour Ruth lorsqu'il l'a épousée. Mais ce qui est intéressant, c'est que Job comprend que lui-même avait un goël, un rédempteur spirituel. Quelqu'un, parce que qu'est-ce que ça veut dire rédempteur? C'est quelqu'un qui rachète quelqu'un. Donc il savait qu'il avait besoin lui-même d'être racheté. Job aurait pu utiliser un autre mot. Il aurait pu dire, je sais que mon sauveur est vivant, ou mon champion est vivant, ou mon avocat est vivant, ou mon seigneur est vivant. Non, il a choisi le mot rédempteur. Rédempteur. Parce qu'il savait qu'il devait être lui-même racheté par ce rédempteur. Car il était lui-même esclave du péché. Il devait être libéré de cela. Bien sûr, il savait qu'il appartenait déjà à Dieu. et que son péché qui avait brisé cette relation, ben, il connaissait déjà le Rédempteur. Il avait été racheté pour son péché par ce Rédempteur. Qui est ce Rédempteur? Tenez-vous bien. Je vais vous citer des versets dans le Nouveau Testament, d'accord? Dans 1 Pierre 1, il est dit ceci. « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Voyez-vous, l'Ancien Testament a plus de 300 prophéties qui parlent du Messie à venir, du Rédempteur à venir. On a vu tout à l'heure les images où ils ont mis le sang sur les linteaux pour empêcher que l'ange de la mort les tue. Ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Tous ces agneaux de l'Ancien Testament pointaient au Rédempteur à venir, le Messie Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre nous dit. Et donc, Job nous dit que ce Rédempteur est vivant. C'est ce qu'il dit dans le verset. À son époque. Et il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera sur la terre. C'est franchement étonnant. Il savait que, bien après sa mort, que son Rédempteur viendrait sur la terre. C'est incroyable. Job décrit apparemment le jour où Christ se tiendra debout sur la terre à la fin des temps. Alors je pense que Job écrivait des choses sans vraiment comprendre la portée de ce qu'il écrivait. Donc, Job, premièrement, savait que son corps serait détruit, et deuxièmement, savait qu'il avait un Rédempteur. Et troisième chose, écoutez, c'est génial, Job était certain qu'il verrait Dieu à cause de ce Rédempteur. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera, écoutez bien, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable, mes yeux le verront, non ceux d'un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job savait que lorsque l'homme meurt, ce n'est pas le nihilisme. On ne disparaît pas, plus rien, non. Non, il y a la vie après la mort, nous sommes une âme éternelle en fait. Et la question c'est, est-ce que nous allons passer l'éternité rachetés dans la présence de Dieu ou non rachetés, pas dans la présence de Dieu? Et lui dit que son Rédempteur lui permet de voir Dieu. Et bien sûr, ceci implique la résurrection. Dans 2 Corinthiens 5:1, nous savons en effet que si notre corps vient être détruit, nous avons au ciel une demeure qui n'est pas l'œuvre de l'homme, une maison éternelle que Dieu nous a préparée. En effet, nous souhaiterions être revêtus de l'habit nouveau, le corps céleste, en sorte que ce qui est mortel en nous soit absorbé par la vie. Paul est en train de dire, waouh, c'est trop génial ce qui nous attend. Ça, c'est ma version, donc. Mais c'est ce que Job dit. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Maintenant, on comprend pourquoi Job a dit « Mon âme languit d'attente au-dedans de moi ». Quelque part, il disait « C'est mieux de mourir. » Parce que je sais que à ce moment-là, je serai dans la présence de Dieu grâce à mon Rédempteur pour l'éternité. C'est ce que Paul avait dit dans 2 Corinthiens 5:8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Mais la fin de la vie, c'est Dieu qui la décide. Et bien que Job était prêt à partir, et bien Dieu n'était pas prêt pour Job de partir. Et en fait, Dieu a guéri Job et lui a redonné tout ce qu'il avait perdu à la fin de l'histoire. On a vu cette semaine, mes amis, que la vie peut basculer de manière soudaine et de manière inattendue. Moi, chaque fois que je prenais ma voiture cette semaine, honnêtement, je me disais, John, fais un petit peu plus attention. Honnêtement. Et moi, j'ai une vieille voiture, 19 ans, elle n'a pas de airbag. Des fois, je me dis, c'est peut-être une mauvaise idée. J'espère que je n'aurai pas d'accident. Mais c'est vrai que la vie peut basculer si rapidement. La vie est parfois cruelle. Donc la question se pose, d'où peut venir notre consolation? Eh bien, Job donne la réponse. De notre Rédempteur, de Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus dit que si tu crois en Christ, lui pardonnera ton péché, tu peux vraiment, littéralement, avoir la vie éternelle. Quelque chose de fabuleux. Donc, la conclusion, elle est simple. Est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que c'est vrai pour toi? Oui, les circonstances de la vie peuvent changer, mais la constante, c'est notre Rédempteur qui, lui seul, peut nous donner espérance dans un monde changeant.